Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quand j'écris, par exemple, j'ai besoin de son. Donc, je passe froid, je laisse la radio même allumée en travaillant. Et souvent, ça m'aide. C'est une sorte de moteur pour moi, pour écrire même.
Le musée des sons.
C'est des sons.
Le musée des sons.
Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Ce que l'on aime ici, c'est plonger dans la mémoire auditive de nos invités. En résumé, c'est questionner leur ouïe pour en savoir un peu plus sur leur personnalité. Mais il n'y a pas que les sons qui procurent des émotions. Moi, par exemple, il peut m'arriver qu'une odeur de colle me replonge dans ma salle de classe de maternelle. Ou encore que le goût de la fleur d'oranger me renvoie immédiatement à ma grand-mère et à sa cuisine. Mais comment retraduire de la manière la plus juste les effets et les émotions que nous procurent les goûts ou les odeurs ? Ryoko Sekiguchi est une écrivaine, poétesse et traductrice japonaise. Elle vit en France depuis plus de 20 ans et associer sens, souvenirs et émotions est central dans son travail. Passionnée de cuisine, elle se qualifie souvent de traiteur littéraire. Elle écrit en japonais et en français sur les 5 sens et se plaît à jouer avec les goûts et les mots en accompagnant des chefs ou des sommeliers dans leur travail. Les saveurs ou les odeurs, elle n'en parle pas, mais elle les raconte. Aujourd'hui, on met les papilles de côté pour faire parler ses oreilles. Bienvenue dans le musée des sons de Ryoko Sekiguchi.
Je m'appelle Ryoko Sekiguchi, je suis japonaise, je suis née à Tokyo et ça fait une vingtaine d'années que je suis à Paris. J'écris en japonais et en français des livres sur le goût, sur les perceptions. Je me présente parfois comme traiteur littéraire parce que j'essaie de relier la cuisine et la littérature. Le mot traiteur littéraire m'est venu assez naturellement parce que je faisais vraiment la cuisine et j'apportais ce que j'ai fait, donc les mets. Et les livres. Je suis née, en fait, dans une famille japonaise. Je n'avais aucun rapport avec la France. Mais depuis, disons, lycéenne, j'étais très intéressée par la cuisine. Ma mère était cuisinière. Donc, l'intérêt pour la cuisine est venu assez naturellement. Ce qui fait que, quand j'avais le choix de la 12e langue étrangère à l'entrée de la fac, bah, j'ai choisi le français. Je pensais qu'en apprenant le français, j'allais bien manger. Et je ne relève pas. Je suis venue en France pour terminer mon troisième cycle. Au bout de troisième année, j'ai envoyé le manuscrit de ce que je me suis traduite depuis la langue japonaise à un éditeur français par la poste et qui a dit oui et qui est devenu mon éditeur depuis 20 ans. Moi, j'écris beaucoup sur les goûts, sur la cuisine, parce que c'est un univers très intéressant dans le sens, c'est un challenge. Décrire, par exemple, une personne visuelle, d'apparence, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Alors, comment décrire un goût? Comment décrire une odeur? Comment décrire... En fait, décrire un plat est plus difficile que décrire une personne. Comment faire partager ce qu'on croit ne pas être partageable. Et finalement, c'est aussi le travail de beaucoup de gens de métier, c'est-à-dire donc entre les chefs de cave, quand on fait la dégustation, on sent chacun un goût et on ne peut pas imaginer ce que l'autre sente. Mais ils ont une sorte de langage qui fait qu'ils arrivent à partager leurs propres sensations. C'est ce que j'essaie de, à la fois d'apprendre et aussi d'inventer à ma manière dans ce que j'écris. Je pense que je suis très sensible aux voix. Je me remémore assez bien des voix des gens, des timbres, les voix que j'aime pas. Je peux ressentir les sentiments de quelqu'un par les voix. Les sons peut-être en général, enfin dans le sens large, moins que les voix, mais plus que le visuel en fait. Quand j'écris par exemple, j'ai besoin de sons. Donc, je passe froid, je laisse la radio même allumée en travaillant. Et souvent, ça m'aide. C'est une sorte de moteur pour moi, pour écrire même. Quand je traduis, par exemple, moi, je laisse carrément la radio allumée. J'écoute l'émission en même temps que de traduire. Il n'y a pas de bon son et mauvais son pour moi. Enfin, à moins que des bruits vraiment... Enfin, des subtils très très forts. J'arrive à travailler avec, je ne sais pas, avec du bruit, une brouhaha de la vie. Dans un café, par exemple, c'est très agréable pour moi d'avoir les sons autour de moi. Quand je traduis, par exemple, un roman, j'ai besoin de déterminer, enfin, d'imaginer la voix de chaque personnage. Et en fait, ça m'aide beaucoup à donner le ton pour chaque personnage, donc pour que qu'un lecteur puisse reconnaître un personnage à l'autre. Et surtout, comme je traduis pas mal de mangas, bon, bien sûr, dans les mangas, il y a beaucoup de onomatopées et les sons écrits, parce que c'est onomatopées, ce sont des bruits écrits. Et très important, en fait, dans mon travail, parce que je traduis les sons. Par exemple, dans un manga japonais, il y a une onomatopée particulière, en fait, quand on feuille quelque chose, hein, dans les poches, par exemple, et la l'équivalent n'existait pas en français. Et là, maintenant, en fait, on écrit souvent « fouille-fouille ». En japonais, on dit « gosso-gosso ». Et quand c'est écrit, enfin même quand je dis gosso gosso, on comprend tout de suite que quand on fait quelque chose, donc qu'on cherche quelque chose. Parmi les onomatopées, il y a une onomatopée qui signifie le silence. Quand c'est écrit en japonais, shin, ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Mais même, par exemple, quand dans la conversation, quand on dit shin, ça veut dire j'ai pas de réponse, c'est l'ange qui parle. C'est le silence que je tombe.
Le musée des musées des sons.
J'étais sous.
Le musée des sons.
Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te réveille ?
Le son d'une grosse erreur. Alors, je pense au garage et le son de fermer violemment le contrevent. Je voudrais sortir, mais je ne peux pas parce que la porte est fermée. Et en fait, c'est la porte elle-même qui dit « je ferme » et « tu ne peux plus sortir ». C'est une sorte d'annonce brutale. Le dernier son de ma journée, c'est le son de l'eau qui coule, mais que j'entends de chez les voisins. Le meilleur générique de démission, c'est celle de passer sur France Culture, des cultures d'islam, parce que c'est quelque chose que j'ai écouté dès le début de mon séjour en France. C'était à l'époque où j'apprenais le persan, j'étais intéressée à la culture d'islam. Donc, ça reste toujours le meilleur générique.
Culture d'islam par Abdennour Bidar.
Le pire générique d'émission, c'est une émission de la télé de dessin animé quand j'étais petite qui s'appelle Kitalo le repoussant. L'album est traduit en français, mais je ne sais pas si l'émission a été diffusée en France. Quand j'entendais ce générique, j'ai eu le frisson à tel point que mon petit frère, chaque fois qu'on se dispute, il répétait le générique et ça me faisait fuir. Le son de confinement. Alors, pour moi, c'était, encore une fois, les matins de France Culture, mais qui étaient transformés en France Inter. Et donc, tous les matins, 7 heures, au lieu d'écouter France Culture, je devais écouter France Inter, des gens en fait, qui étaient tout inquiets, qui disaient « Alors, mon chien, mon assurance, je ne sais pas quoi, le Covid. » Et ça m'a... Le son de Paris, c'est l'annonce qu'on entend en arrivant à l'aéroport de Roissy, mais à l'ancien. J'ai oublié le terminal combien, mais... Quand j'entends l'annonce, à la fois, ça me fait tout de suite revenir à la première fois que j'ai pris de l'avion et que j'ai atterri en France à l'aéroport. Et une sorte de sensation, de sorte de mélange à la fois d'excitation, d'inquiétude et aussi ce sentiment de savourer l'inquiétude.
Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte D.
Le son d'un plat réussi, c'est le son de la machine à écrire et non pas mais qu'on est en train d'écrire, mais lorsque qu'on change la feuille. À la différence de l'ordinateur, donc sur lequel on écrit, mais c'est toujours virtuel, mais sur la machine à écrire, on tapait, en fait, c'était très concret. Et lorsque on arrivait à la fin d'une page, il y a quelque chose qui est accompli. Et donc, on change la feuille, et il y a quelque chose de... Ça y est, c'est fait. Le son qui a marqué ma vie et que je n'ai pas déjà cité. Alors, c'est le moment où j'ai appuyé le message sur le répondeur de mon téléphone fixe et que j'ai entendu la voix qui me dit « Bonjour, Paulo Tchaikovsky, Laurent de CPOL » et qui a dit que mon manuscrit a été accepté. Ça, je pense que c'est ce moment de « Pouh ». C'est le son qui a changé ma vie aussi. Non seulement marqué, mais ce pour a changé ma vie. Non, mais c'est vrai. Et je raconte cette histoire, mais en fait, je ne sais pas, dizaines de milliers de fois, et je pense que c'est toujours ça. Le son qui me définit le mieux, c'est le pas qui descend l'escalier à toute allure, ou bien ce qui monte à toute allure. Le son pour finir, un podcast en beauté. C'est ce mot en beauté qui m'a fait dire. C'est l'ancienne publicité qui dit « On a toujours besoin de petits pois ce soir !» Je pense que c'est la boîte en conserve de petits pois.
Vous aimez ça, hein ? On a toujours besoin de petits pois ce soir !»